Quand le diable a demandé que Jésus change les pierres en pain, c'était une tentation pour gratifier sa chair. Alors que changer de l'eau en vin, alors là, c'est donner. En fait, c'est bénir les autres. Tout ce qui est le contraire. De même, nous avons vu que la tentation où Satan a amené Jésus sur le haut du temple, il a dit jette-toi en bas. Puis avec ça, il y a une tentation de se vanter, tentation de la fierté. Si tu es vraiment qui tu es, alors montre-le devant nous tous pour que tout le monde puisse le voir. Ça trouve justement, nous avons vu, sa résolution en ce que Jésus a dit à ses pharisiens et ses chefs religieux qui s'opposaient à ce qu'ils faisaient dans le temple. Ils n'acceptaient pas que Jésus nettoie tout le temple. Alors ils ont dit, quel signe montre-nous? Et il a dit, détruis ce temple. Et 3 jours après, je relèverai. Et donc il parlait de son corps, en fait. Que la seule solution, donc, pour cette fierté de la vie, l'orgueil de la vie, de se montrer cette tentation justement de Satan, et donc là, il faut crucifier la chair et il faut vivre selon l'esprit. Comme Jésus a dit, ce corps doit être détruit et puis relevé. Troisièmement, le diable a tenté Jésus de s'incliner devant lui. Et puis, il y aura tous les royaumes de la terre, tous les peuples du monde qui l'offrent à lui. Si seulement il s'incline et qu'il commence à le louer. Et donc, la réponse à cette tentation se trouve donc en chapitre 3. Chapitre 3 de l'évangile de Jean où Jésus parle justement de comment le royaume de Dieu va être construit. Et ce ne va pas être par les moyens diaboliques, ni d'un effort humain, mais ça va être construit spirituellement pour l'instant. Et donc, il faut une renaissance, un renouveau spirituel. Et c'est ce renouveau spirituel, donc, qui correspond à cette entité que Satan voulait offrir à Jésus. Jésus, donc, qui donne sa vie. C'est pas que sa vie a été enlevée, qu'il était exécuté, plutôt qu'il a donné sa vie. Car tu as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça, c'est le moyen que Dieu construit le royaume. Il fallait que Jésus meure. Il fallait qu'il prenne sa croix et qu'il suive le Père. Donc, chapitre 3. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, Nicodème, qui était-il? Un chef parmi les pharisiens. Il y a un passage dans le Talmud qui parle d'un Nicodème Ben Gurion qui a vécu à peu près à ce moment, qui était un des 3 grands enseignants de l'époque, qui était un homme très riche, et donc il avait énormément d'influence, qui était un membre de la Sanhédrin. Mais il était un des plus grands enseignants, docteur donc de la loi. On ne sait pas si c'est lui ou pas, mais il y a d'autres détails qui pourraient correspondre tout à fait, qui pourraient être justement les indices qui décrit cet homme. On va voir ça peut-être plus tard. Mais pour maintenant, ce que nous voyons, c'est un homme des pharisiens. Et des pharisiens, était donc une branche du judaïsme très strict, des gens qui voulaient vraiment adorer à la loi. Il y a un savant qui s'appelle Eldersheim, qui écrivait dans le 19e siècle, qui a beaucoup étudié les Parisiens et les cultures et les coutumes israélites à l'époque. Et il a dit que, en fait, un Parisien à l'époque de Jésus était quelqu'un qui se fait remarquer. C'était impossible de ne pas savoir qu'on était dans la présence d'un Parisien. Par exemple, si on était au marché et on avait le malheur d'être derrière le pharisien, on va être retardé certainement parce qu'il s'arrête tous les 3 minutes pour prier sur chaque chose qu'il touche et sur chaque chose qu'il voit. Aussi, si on rencontre un pharisien, on va le savoir instantanément parce qu'il ne veut pas toucher une personne qu'il estime est impure. Il peut être n'importe qui. Et il ne veut même pas que sa robe touche la personne. Donc ce sont des gens qui avaient un certain prestige, un certain honneur parmi le peuple, réputation d'être pur, mais aussi un peu ennuyant, parce qu'ils étaient tellement purs qu'ils ne se mêlaient pas avec les gens. Ils avaient vraiment des coutumes un peu à l'extrême. Mais il faut dire que les pharisiens ne commençaient pas ainsi. En fait, ils commençaient comme des gens qui voulaient simplement suivre la loi de Dieu. Ils ont commencé bien, mais quelque part, ils ont perdu le premier amour, ils ont perdu l'esprit, et ils ont fini par ajouter plein de traditions, des traditions qui avaient le but de protéger ces gens, de briser la loi, donc ce qu'ils ont fait, ils ont créé plein d'autres lois qui créent des obstacles pour qu'ils ne touchent jamais les lois, tellement il y avait d'obstacles entre eux et la vraie loi. C'était comme comme un filet pour protéger les gens qui s'approchent trop de la loi. Mais en créant toutes ces traditions, ils ont rendu la loi ridicule finalement, tellement ils ont en ajouté. Mais être un chef parmi les pharisiens, alors ça c'est autre chose, et ça c'était le cas de Nicodème. Le Sanhédrin était composé de 70 membres, et pour être un membre d'un Sanhédrin local, parce qu'il peut avoir, et il y avait des petites Sanhédrins locales, qui étaient simplement des hommes chargés des affaires des différentes synagogues et des affaires. En fait, pour être quelqu'un estimé ou enfin candidat pour le Sanhédrin, la liste ressemble beaucoup à la liste que Paul nous donne, étrangement, en 1 Timothée chapitre 2, lorsqu'il décrit ce qu'il faut pour quelqu'un qui veut être un évêque. Donc, il faut qu'il soit apte à enseigner, bien sûr, mais il faut qu'il dirige bien sa maison, qu'il ne soit pas donné au vin et ni aux excès, qu'il soit un homme paisible, qu'il soit irréprochable, des choses pareilles en fait. Le Sanhédrin était dissous lors de la destruction du temple, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Pourtant, j'ai lu un article dans le Jerusalem Post qui a fait allusion à la possibilité d'un nouveau forme de Sanhédrin. De toute façon, ça nous donne une petite idée de qui c'était ce Nicodème et pourquoi il venait la nuit. Rappelons-nous de ce qui venait de se passer, justement, le chapitre précédent. Jésus venait de nettoyer le temple, il venait de détruire ce commerce illégal que ces gens avaient dans la cour des païens. Jésus donc, qui a nettoyé le temple, bien sûr, il a offensé beaucoup, mais il n'a pas offensé tout le monde. Avec tous ses miracles, tout ce qu'il a fait, les gens venaient à lui, mais il ne se confiait pas à eux parce qu'il sait ce qui est dans un homme. Et avec tout ça, il paraît qu'il y a au moins une personne dans le Sanhédrin qui est touché. Il vient voir Jésus la nuit. La nuit parce que n'est pas sûr. La nuit parce que s'il est vu par les autres, il se met en danger. Et il commence en l'appelant Rabbi. Pour quelqu'un de sa position, pour appeler un autre homme Rabbi, qui veut dire un maître, c'est un grand compliment. C'est vraiment une grande chose. Et donc il affirme qu'il est, Jésus est un docteur de la loi. Rappelons-nous de ce qu'il dit juste après le sermon sur la montagne. Les gens étaient dans l'étonnement parce qu'ils n'ont jamais entendu personne prêcher comme Jésus, ayant autorité, pas comme les scribes. Certainement, quand il prêchait dans le temple, c'était pareil. Il a remarqué, ça sonnait juste, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc là, nous voyons qu'il n'est pas encore prêt à dire que tu es le Messie. Il appelle Rabbi, il appelle Docteur, Dieu est avec lui. Il est presque prêt à dire tu es prophète, mais peut-être pas aller jusqu'au bout. Mais il est là. Il est là et Jésus ne le repousse pas. Et ça, c'est quand même une très grande chose. Fait que le Seigneur ne repousse personne, jamais. Et ça, c'est un bon exemple pour nous parce que parfois, les gens peuvent venir nous parler et peut-être c'est d'une façon inattendue ou irrégulière. Et donc, je trouve l'exemple de Jésus parfait parce qu'au lieu de le repousser, au lieu de le renvoyer, dire ben, « prends rendez-vous et reviens demain », là, quand même, il s'arrête et il parle à cet homme là où il est, exactement comme il est, et il fait le pont entre lui et Jésus, et il écoute, il pose des questions, il reçoit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Donc Nicodème qui pense tout de suite à ce qui est de physique, c'est normal. Surtout un homme de son âge, oui, bien sûr. Jésus, il a tout simplement parlé de naissance, mais il a dit naître de nouveau. De nouveau. Peut-être il ne l'a pas entendu. Peut-être il était sur le toit d'une maison, comme faisaient les gens à l'époque, pour échapper à la chaleur dans la journée. Peut-être il y avait du bruit, peut-être il n'a pas entendu ce petit mot « nouveau ». Peut-être il n'a pas, tout simplement pas compris. Comment ça peut se faire? Je suis vieux. Je ne peux pas entrer une seconde fois dans le ventre de ma mère. Et Jésus, très patient, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, il y a plusieurs possibilités, d'eau et d'esprit. Apparemment, Nicodème a compris parfaitement parce qu'il n'a pas posé de question là-dessus. C'est aujourd'hui où on a du problème avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il se peut qu'il voulait dire qu'il faut qu'un homme naît d'abord d'eau, comme les enfants naissent, il y a d'abord les os du maman qui brise, et puis un enfant est né donc avec la venue des os, et il faut aussi qu'il naisse de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si on est né seulement par la naissance naturelle, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas, dans le cas de Nicodème, d'être un pharisien parmi les pharisiens pour entrer dans le royaume de Dieu. On peut être le plus haut chef de toute la nation. On peut connaître tout le Torah et puis être disqualifié pour le royaume de Dieu si on n'est pas né de nouveau, né de l'esprit. Une autre possibilité, c'est que il parle du baptême, parce que à l'époque, Jésus baptisait beaucoup du monde à l'époque, aussi bien que Jean. Enfin, ce n'était pas Jésus, mais Jésus, les disciples de Jésus qui ont baptisé. Et il se peut donc qu'il voulait dire il faut que tu passes par le baptême et que tu naisses de nouveau. Or, il y a un problème avec ça. C'est que il a quand même dit au brigand sur la croix à côté de lui, un homme qui n'a jamais été baptisé, que aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Soit Jésus a changé d'avis rapidement sur la croix, une proposition inadmissible, ou bien on doit écarter cette idée. Pourtant, juste pour en parler, il est important de dire que le baptême est très important. Le Seigneur commande justement le baptême. Le baptême est un symbole pour le monde, pour que les gens sachent que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes ressuscités avec lui. C'est une confession publique de notre foi, des réalités. Et c'est pour ça que le Seigneur veut vraiment que les gens soient baptisés. C'est pour ça, justement, que nous faisons cette cérémonie. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. On fait bien de se faire baptiser, mais quand même, ce n'est pas ça qui nous sauve. Notre idée, c'est que l'eau représente la purification. Vous êtes purifiés par ma parole, Jésus a dit. Et donc, Jésus qui prêchait le royaume de Dieu est arrivé, le royaume de Dieu est proche, il expliquait les Écritures. En fait, il y avait une œuvre purificatrice en écoutant sa parole, parce que ça mène les gens vers la repentance. Et en se repentant et en mettant leur foi en lui, ils sont donc purifiés. Parce que le moment où nous croyons, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes justifiés. Donc, tous ces péchés, bien sûr, ils sont pardonnés, mais nous avons la justice de Christ qui nous est attribuée à notre compte. Donc, nous sommes purifiés au même moment que nous sommes régénérés spirituellement. Voilà notre possibilité. Alors, parmi ces différentes idées, moi, je trouve le premier et le dernier les meilleurs, mais il faut dire que ça reste quand même un débat actuel, un débat que Nicodème n'en avait pas. C'est un peu dommage qu'il n'a pas compris. S'il avait seulement posé la question, on aurait su aujourd'hui. Mais Jésus poursuit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Simplement, ce qui est né de la chair. Si un homme est né, donc il est terrestre, ça c'est une chose. Il peut aussi naître spirituellement. Mais ces deux choses ne sont pas pareilles. Et ça nous renvoie vers le jardin d'Éden. Parce que, à cette époque, l'homme était en fait régi par l'esprit. Il n'avait pas encore la connaissance du bien et du mal. Il n'avait que la connaissance du bien. Il marchait donc avec Dieu. Et donc, c'était l'esprit qui dirigeait l'homme. Mais lorsqu'il a pris le fruit, c'est à ce moment-là qu'il connaissait le mal. Parce qu'il a péché. Et donc, il connaît le bien et le mal. Et avec la mort spirituelle maintenant qui l'envahit, nous voyons que ce n'est plus l'esprit qui dirige l'homme, la femme. En fait, c'est le physique, c'est la chair. Et ça, c'est pourquoi les gens vivent de leur appétit dans ce monde. Par exemple, ils vivent en quête de tout ce qui peut satisfaire le corps, finalement. Dans tous ses goûts, dans toutes ses nécessités. Et ce qui arrive, c'est que avec le péché en nous, on prend de ce qui est naturel, normal, donné par Dieu, un appétit, par exemple, pour la nourriture, et puis on le pervertit, et ça devient une obsession, soit pour manger trop, soit pour ne pas manger assez. Il y a même pas mal de maladies pour ceux qui ne mangent pas bien alors qu'ils ont tout en abondance. Il y a aussi ceux, et c'est le même genre de péché, qui font tout pour assurer leur confort, donc, et qui travaillent bien pour qu'ils aient toutes les meilleures choses, le meilleur lit, la meilleure voiture, le meilleur appartement, tout pour que tout soit bien confortable, pour qu'ils aient tout ce qu'ils veulent et tout. Et donc nous voyons que ce qui est normal, ce qui est naturel, peut être tout à fait détourné par le péché pour être quelque chose qui n'est pas du tout ce que Dieu veut. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, qu'est-ce qui arrive? Il est régénéré, il y a un changement. Ce qui est né de l'esprit est de l'esprit, Jésus dit. Donc c'est l'esprit de Dieu qui vient et qui fait raminer, un petit peu comme les électrochocs où on ramine le patient et puis il reprend vie. Et donc, mais c'est beaucoup plus efficace puisque c'est Dieu qui le fait. Et donc, c'est maintenant l'esprit qui dirige. Et donc, nous sommes enfin capables de marcher en communion avec Dieu, comme Adam a fait. Même si le corps physique se détériorise et va mourir un jour ou un autre, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est un renouvellement chaque jour et surtout chaque fois que nous passons du temps avec le Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons ressentir le renouvellement de notre force spirituelle plusieurs fois dans une journée, dépendant du temps qu'on passe avec le Seigneur. C'est une chose donc spirituelle qui se passe, la nouvelle naissance. Et il est primordial de l'avoir si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'un homme qui était, entre guillemets, un complet raté, qui n'a même pas terminé le lycée, qui a fait tout le mal dans le monde, mais qui se répande et qui donne complètement sa vie à Christ, cette personne-là peut entrer dans le royaume de Dieu alors qu'un grand chef religieux qui n'a jamais été né de nouveau est laissé à côté. Et donc il dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Ah, peut-être, justement, Jésus entendrait le bruit, le vent. C'est vrai. On entend le vent, on voit ses effets, mais on ne le voit pas. Et c'est exactement pareil avec quelqu'un qui est né de nouveau. Ça se ressent. On le sait. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait pour autant. Mais il y a une qualité. Il y a quelque chose qui est différent, c'est palpable, mais ce n'est pas forcément visible. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Je crois qu'il a toujours cette idée de rentrer dans le ventre de sa maman. Il dit, mais comment ça peut se faire? Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? Alors notez bien, il a dit tu es le docteur. Il n'a pas dit tu es un docteur, mais le. Alors peut-être il était justement ce Nicodème Ben Gorion dont parle le Talmud, qui était un de ces trois grands à l'époque de Jésus. Il y a d'autres détails aussi qu'on va voir. Mais le docteur. Donc s'il est le docteur, il y a peut-être quelque chose qu'il devait connaître. Et Jésus va lui donner une petite étude biblique là-dessus. Mais est-ce qu'il y a un autre passage qu'il devait connaître où on parle d'une renaissance dans l'Ancien Testament où il y a un souffle, où l'esprit qu'il touche? La réponse est bien sûr, c'est en Ézéchiel chapitre 37. Un passage qui est très connu. En fait, c'est tellement connu que il y a dans la vallée Kidron des tombeaux innombrables de gens qui ont choisi de se faire enterrer là-bas parce qu'ils croyaient littéralement dans cette prophétie. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur l'éternel à ces os. Voici que je vais faire venir en vous en esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Alors sautons un petit peu parce qu'il suit donc les instructions. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents et souffle sur ces morts. Ils revivent. Alors, une prophétie qui parle des fins de temps où Dieu va faire revivre Israël, un temps de résurrection, un temps où le Messie va régner. Nicodème devait avoir ça en tête en tant que le docteur d'Israël. Et voilà un passage qui parle de l'esprit qui fait revivre les morts. Exactement comme nous voyons ici, des morts vivants cette fois-ci. Et donc nous voyons que ce n'est pas impossible et que c'était même un type de ce que Dieu fait même maintenant. Comme nous savons aussi que Jésus n'aimait pas passer la nuit à Jérusalem, il est même possible qu'il était sur le mont des Oliviers en regardant justement cette vallée dont on parle. Toi, le docteur d'Israël, comment tu ne sais pas ces choses? Alors, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, le nous et le vous. Donc le nous, ça répond à Jésus, donc, et bien sûr le Père, parce qu'il vient du Père. Il y a aussi le témoignage du Saint-Esprit en lui. Donc ce nous qui est à la ressemblance de Dieu qui est un, qui se révèle en trois personnes. Vous, donc, le monde. Et il essaie de faire le pont, mais quel est le grand problème aussi? C'est qu'il ne peut pas comprendre ces choses s'il n'est pas encore né de nouveau. Il y a ça aussi dedans, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui vient après la vie. La vie éternelle commence maintenant. Ce n'est pas une quantité de vie, c'est-à-dire une vie qui dure pour toujours. Mais c'est une qualité de vie, une qualité divine de vie qui vit en nous, une qualité qui nous fait revivre. Et tant que nous ne sommes pas illuminés par l'Esprit de Dieu, il y a des choses basiques mais très profondes qui sont inaccessibles. Donc pour un Nicodème, à ce moment-là, avant qu'il ne soit illuminé par le Saint-Esprit, c'est très dur pour lui de comprendre, parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Jésus, donc, par son discours, lui tend la main et lui ouvre la porte pour qu'il sache, justement, pour qu'il y entre. Et comment est-ce que ça peut se faire? Jésus donne la réponse. Il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il fait référence à une histoire dans l'Ancien Testament où les Israélites ont même rencontré l'Éternel. L'Éternel a laissé des vipères, des serpents brûlants mordre le peuple. Il y en avait beaucoup qui sont morts à cause de cette plaie. Et il tombait à genoux, il implorait l'Éternel. L'Éternel qui a dit à Moïse, il faut trouver donc cette perche, il faut fabriquer une serpent de bronze et tu le mets sur la perche. Et il faut que les gens regardent vers la perche, le serpent, et pour ceux qui le font, ils seront guéris. Mais il faut la foi, parce qu'il n'y a rien dans cette perche, sauf la foi derrière ce que Dieu va faire pour opérer cette guérison. Jésus dit exactement comme ce serpent est élevé, moi aussi. Serpent qui représente le péché, justement. Jésus, donc, qui représente, qui a pris tout le péché sur lui. Parce que c'est Christ qui, en ce moment, lors de sa mort, a pris tout le péché du monde sur ses épaules. Donc, dont les miens, dont les vôtres, tout passé, futur et présent, il a porté tout ça sur lui, jugé donc par le Père, pour que les gens comme moi, comme vous, les pauvres pécheurs comme nous le sommes, nous puissions avoir la vie éternelle tout simplement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est mis à la portée de toute personne, n'importe qui, n'importe où. Ce n'est plus seulement une petite poignée des gens dans un seul pays sur la terre. C'est ouvert à tout le monde parce que Dieu a tant aimé le monde. En fait, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a commencé avec Abraham. Qu'il a commencé cette seule histoire, il voulait aller dans cette direction. Dieu n'a jamais changé d'avis. Il n'est pas devenu gentil dès que nous commençons le livre de Matthieu. Non, il est le même, toujours. Il avait toujours cette idée en tête. Dieu a tant aimé le monde. Il a son peuple choisi. Mais maintenant, il est dans le business d'adopter les fils et les filles dans son royaume. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est très important de le dire, parce que Jésus n'est pas venu pour juger cette fois-ci. Il va avoir un jugement bientôt. Et c'est ça ce que nous prêchons aussi. Les temps ne vont pas continuer tels quels. Et nous voyons, il y a justement des signes des fins des temps partout. Il suffit de lire l'actualité. Mais Jésus est venu pour sauver. Donc nous devons faire très attention à la façon dont nous décrivons Jésus. Il est venu pour sauver. Il est venu pour faire grâce. Il va juger un jour. Il a le droit de juger. Pour l'instant, nous vivons dans la dispensation de la grâce où Dieu tend la main vers les gens pour qu'ils puissent être sauvés. Mais un jour, ça serait trop tard. Et si les gens qui ont désobéi à la loi au temps de Moïse sont morts sur le coup dans le désert? Combien de plus grave sera-t-il le jour du jugement si quelqu'un refuse la grâce offerte par Jésus-Christ, par Dieu le Fils lui-même? Ça nous montre une plus grande grâce qui nous est offert aujourd'hui une grâce qui est libre pour nous, parce que ça lui a coûté énormément. N'importe qui. Remarquez-vous, il n'y a aucune organisation humaine pareille. C'est vrai que, du coup, en Europe, on peut traverser les frontières comme on le veut. Mais essayer d'entrer en Europe sans un visa ou sans avoir des bons papiers, là, dans le royaume de Dieu, n'importe qui peut venir. Il faut qu'il répente. Il faut qu'il croie en le Fils, car celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voilà le jugement. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc ça, c'est le jugement. Le jugement est déjà dans le monde. Selon Romains chapitre 1 aussi, c'est manifesté dans le sens que les gens, ils ont connu Dieu, mais ils ne voulaient pas le reconnaître en tant que Dieu. Donc Dieu les a donnés à leur passion. Il leur a donné à un esprit réprouvé. Et ici, la cause, c'est tout simplement parce que la lumière est venue et ils ne voulaient pas que ça soit là où ils sont. Et ça nous enseigne aussi que il y a des gens, il y aura toujours des gens donc, qui ne veulent pas que la lumière de Christ brille. Parfois, on a cette idée que, oh, si seulement ils comprennent. Ah, bon, peut-être ils ont bien compris. Il y aura des gens, il y a des gens. Et ça, c'est pourquoi nous voyons dans la société des traces du jugement de Dieu. C'est pour ça qu'il y a ces choses terribles qui se passent. C'est que les gens, ils préfèrent les ténèbres. Et dans les ténèbres, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon, pas de grâce, pas d'espérance, pas comme nous entendions. Bon, quelqu'un peut être un athée et il peut être heureux pendant un moment. Il n'a pas la joie du Seigneur. Il n'a pas la paix qui dépasse l'intelligence, car il n'a pas reçu la lumière. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Combien de secrets est-ce qu'il y en a? Il y en a tellement de secrets et de petites histoires de complicité que parfois on a même du mal à entendre l'actualité à la télé. Il y a plein de choses qui se passent dans le secret, dans les ténèbres cachées. On ne veut pas que la lumière brille dans ces endroits-là. Mais celui qui pratique la vérité, il vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté, que ses œuvres sont faites en Dieu. Et ça, c'est donc un signe, un exemple, par lequel nous pouvons reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau. Il n'a rien à cacher, il est transparent. Alors, pour revenir donc à cette question de Nicodème, le passage dans le Talmud continue à parler de cette Nicodème Ben Gurion, en parlant justement de sa fille qui devait être mariée. Et c'était à l'époque juste avant la destruction du temple. Et remarquez-vous, la famille était ruinée. Il n'y avait pas suffisamment d'argent pour donner une dot. Comment ça se fait que Nicodème, qui était un des plus grand, qui était très privilégié, qui avait tellement de richesses, se trouve dans si peu de temps appauvri à ce moment, mais apparemment heureux puisque sa fille va se marier. Il est très probable qu'il s'est converti, il s'est donné sa vie à Christ. Rappelons-nous de ce qui s'est passé après la crucifixion. Il a osé faire ce que même les disciples ne voulaient pas faire. Il a même osé prendre le corps de Christ, s'afficher devant tout le monde. au pire des moments. Et dans le livre des Actes, on voit que même il y avait des gens parmi les pharisiens qui ont commencé à croire. Il est possible. Il est possible. Et ça nous rappelle aussi que si quelqu'un est peut-être pas encore là, mais il pose des questions aujourd'hui, peut-être il convertira demain. Continuons donc. Continuons à croire surtout et prier pour la personne. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean s'y baptisait à Aenon, près de Salim, parce qu'il avait beaucoup de points d'eau. Et on s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Donc, histoire de jalousie. J'ai entendu ce nouveau-là commence à prendre tes gens. Là. Jean, il faut faire attention. Hein. Il faut peut-être que tu t'éloignes un petit peu, faire une bonne campagne de publicité. Il faut que tu prennes les adresses. Que tu sois peut-être plus gentil, il ne faut pas peut-être crier. Non, non. Jean, il prend bien sa position. Il ne change pas de tactique. Mais il leur rappelle une chose. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux de ce qu'on a, on a en Christ. Et combien de tant est-ce que nous perdons dans notre vie à peiner pour les choses qui ne vont jamais arriver, ou même rêver sur des choses qui ne vont jamais arriver non plus, des choses qui ne sont pas de Dieu finalement. Et que même si on l'avait dans notre possession, ça ne rendait pas plus heureux. Jean, il a trouvé le petit secret de Paul, du contentement en tout. Paul qui a compris en Philippiens être content dans la disette aussi bien que dans l'abondance. Parce que sa vie est Christ. Jean aussi, il a compris que la meilleure chose qu'on puisse posséder, c'est le contentement avec ce que Dieu nous donne. Parce que quelqu'un qui est content, il est le plus riche du monde. Parce qu'il n'a besoin de rien. Vous-même, mettez-moi que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il me dit, rappelez-vous, c'est moi qui l'a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est moi qui vous ai... Et de toute façon, pourquoi vous êtes toujours là? Je vous ai dit, c'est lui qui a l'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, c'est qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie. À cause de l'époux, de la voix de l'époux, et aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ça le but depuis le début. Et il y a une richesse aussi, pas seulement dans le contentement matériel, mais à savoir qui nous sommes. Il y a beaucoup écrit, dit sur l'identité. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Je suis justifié par Christ. Donc quand Dieu le Père me voit, il me voit avec la justice de Christ. Voilà qui je suis. Qui suis-je? Je suis choisi par Dieu avant la fondation du monde. Qui suis-je? Qui suis-je par rapport à la parole? Pas qui suis-je par rapport à ce que les gens ont fait de moi dans ma vie? Ce n'est pas qui suis-je par rapport à mon éducation, le fait que j'ai déménagé beaucoup quand j'étais petit, que j'étais élevé dans un pays qui se trouve très loin de ce pays. Bien sûr, ces choses-là font partie de ma personnalité, mais qui suis-je? Par rapport à la parole, c'est ça qui donne la perspective de Jean. Il savait exactement qui il est et ça donne beaucoup de paix. Sachant qui nous sommes en Christ, ça enlève cette lutte constante de devenir quelqu'un d'autre. On peut rester tranquille dans les bras de notre Créateur et on peut aussi se contenter de l'œuvre qu'il fait en nous et au travers de nous. Jean, il a découvert ces choses. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout jaloux de ce que Jésus fait. En fait, il est content, justement. Et donc, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Voici donc Jésus. Celui qui est de la terre. Donc ça, c'est Jean. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, répétition. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Donc, quand Jésus est venu, comme il était avec le Père, comme il était depuis toujours, quand il parle, il rend témoignage de ce qu'il connaît. Comme moi, je peux parler avec une certaine expertise de ce que j'ai vécu quand j'étais petit, comme vous aussi. Vous parlez de ce que vous connaissez. De la même manière. Quand Jésus parle des choses spirituelles, il est l'expert par excellence, parce qu'il a vécu, il connaît exactement de quoi il parle. Mais le problème, c'est que les gens n'acceptent pas son témoignage. Les ténèbres ont rejeté la lumière. Mais celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Pourquoi Dieu est vrai? Parce que qu'est-ce que Jésus disait depuis le début? Je suis Dieu. Donc si ce que Jésus dit est vrai, tout ce que Dieu dit est vrai. Parce qu'ils sont un. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. C'est ce verset-là qui nous montre que Jésus était l'homme le plus rempli du Saint-Esprit du monde, sans mesure. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'attristait jamais l'esprit, mais il était toujours en communion, toujours en harmonie parfaite. L'Esprit sans mesure. Ça nous montre que nous qui sommes les enfants de Dieu, ça montre ce que Dieu veut faire pour nous. Il ne veut pas nous donner un petit bout de lui-même, il veut nous donner le tout ce que nous pouvons accepter ou recevoir. Il donne son esprit sans mesure. Donc, ça dépend de nous. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Encore, nous revenons sur ce que nous avons dit. Demeurez sur lui. C'est déjà là. Il faut un changement. Il faut naître de nouveau. C'est ça qui enlève la colère. C'est ça qui nous fait entrer. Parce que si nous continuons à vivre tel quel nous sommes, en refusant de se renaître de nouveau, nous allons en enfer. La colère de Dieu demeure déjà sur ces gens. Mais c'est ça qui fait la grâce tellement beau, tellement merveilleuse. Parce que c'est la clé qui ouvre la porte du prison, qui libère les gens. C'est la porte qui rend libre tous les captifs. Pour ça que Jésus dit. Celui que le Fils rend affranchi est vraiment libre. Il est libre parce qu'il est né de nouveau. Parce qu'il est un enfant de Dieu.